Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, voilà un terme qui a fait une entrée fracassante dans le débat public, le genre. Cette identité qui ne colle pas forcément avec le sexe biologique de la personne ou encore les études de genre qui à l'université viennent explorer à la fois l'égalité homme-femme ou ses représentations. Partout en Europe, la question du genre devient une manière d'affirmer une approche libérale, traditionnelle ou réactionnaire de la famille ou des rapports masculins-féminins. En Roumanie, par exemple, c'est même devenu une bataille politique. Mi-juin, le Parlement a voté pour interdire toutes les études de genre à l'école ou à l'université. Une manière, estiment les associations, de ne pas parler de toutes les identités sexuelles jugées non conformes. Mais le président de la République n'est pas d'accord. Les explications depuis Bucarest de Benjamin Ribou.
C'est dans une ambiance électrique que le texte de loi voté par le Parlement attendait d'être promulgué ou non par le président Klaus Johannis. Une pétition contre le texte avait rassemblé 50 000 signatures. Prenant position contre la loi vendredi dernier, le président a décidé de le porter devant les juges du Conseil constitutionnel. Vlad Alexandrescu est universitaire et sénateur. Il avait voté, lui, contre le texte. Pour lui, cette loi ne porte pas seulement atteinte à la liberté d'expression, mais aussi au droit à l'information et à l'éducation.
Cette loi interdit non seulement de parler des études de genre dans les écoles, mais aussi dans les universités. Or, il y a des chaires, des départements et des masters sur les études de genre. Des gens qui s'intéressent à mieux évaluer le poids des hommes et des femmes dans différentes professions et dans la société, du point de vue des rôles sociaux et sexuels, etc. C'est une chose absolument inacceptable que le Parlement décide d'interdire un domaine d'études dans les universités. C'est du jamais vu.
Les études de genre sont relativement nouvelles en Roumanie et donc très mal connues, à tel point que très souvent, on ne sait pas à quoi elles font référence.
Ce débat en Roumanie a été conjoint avec un autre débat qui est apparu en même temps, celui pour ou contre l'éducation sexuelle dans les écoles. L'éducation sexuelle d'un côté et les études de genre d'un autre côté sont donc d'une certaine façon liées. Évidemment, ce sont des choses complètement différentes. Mais tout cela forme un espèce de paquet que l'opinion publique et surtout les initiateurs de la loi perçoivent comme formant une seule et même chose avec l'identité de genre. Ces questions sont encore très confuses pour l'instant.
Les études de genre abordent généralement des questions telles que la construction des identités, les différences de sexe et de sexualité, ainsi que les rapports sociaux entre sexes. Genre, sexualité, homosexualité, transgenre, famille homoparentale, ce sont presque des gros mots en Roumanie. Il y a 2 ans, une coalition en faveur de la famille avait souhaité faire inscrire dans la Constitution une définition de la famille traditionnelle, composée selon eux d'un homme et d'une femme. Le référendum sur la question avait échoué. Aujourd'hui, la nouvelle loi sur l'identité de genre vise indirectement la communauté LGBT. Vlad Vichki est directeur exécutif de l'association Mosaïque, qui défend les droits des personnes gays et transgenres. Pour lui, cette loi n'est guère une surprise.
Le but du projet est qu'on ne discute plus du tout de l'identité de genre. Cela revient à s'attaquer à l'existence des personnes transgenres et à vouloir les faire disparaître. On a pourtant en Roumanie des élèves transgenres, mais aussi des professeurs, des étudiants. Avec une telle loi, ces personnes-là vont se heurter à l'école à du harcèlement, à des violences et de l'agressivité. En permettant et en encourageant ces attitudes, avec une telle loi, l'État ne va faire que les accentuer.
La communauté LGBT de Roumanie, dont le nombre officiel n'est pas établi, s'est mobilisée et a manifesté en pleine pandémie. Cette atteinte à l'indépendance du système scolaire rappelle ce qu'a fait Viktor Orban en Hongrie en 2018 pour Vlad Vichki.
Il a fait la même chose. Il a commencé par interdire les études de genre à l'université, puis a ensuite fermé la Central European University. Or, en Roumanie actuellement, nous sommes en train d'emprunter le même chemin en ce qui concerne le respect des droits des personnes LGBT. Hongrie, Pologne, Roumanie, ce sont les moutons noirs de l'Est de l'Europe.
Mosaïque et les autres associations LGBT de Roumanie ont demandé le soutien du Parlement européen. La décision du président Ioannis de porter le texte devant le Conseil constitutionnel laisse désormais au juge le soin de trancher de son opportunité.
It's really, really dark.
Et en Pologne, où les électeurs viennent de réélire Andrzej Duda du parti populiste conservateur PiS, la question de l'identité sexuelle a été au cœur de la campagne. Le candidat de droite a ainsi semé la polémique en déclarant que les gays, lesbiennes et trans ne sont pas des personnes, je cite, mais une idéologie comparable à du néo-bolchevisme qui veut sexualiser les enfants. Autant dire une déclaration de guerre idéologique à Varsovie. Thomas Giraudeau.
La phrase a énormément choqué. En Pologne, des militants LGBT ont brandi des drapeaux arc-en-ciel lors des meetings de campagne du président Duda. On pouvait y lire « Nous sommes des personnes et pas une idéologie ». À l'étranger, des médias ont repris ses propos, obligeant le chef de l'État à se justifier maladroitement. Mais ces critiques ont aussi participé à sa stratégie de campagne. Andrzej Duda se présente comme le défenseur d'une Pologne traditionnelle, des familles hétérosexuelles attaquées par l'Europe de l'Ouest. Alors le candidat tout fraîchement réélu ne s'est pas arrêté là. Il a signé une charte de la famille concoctée par un lobby ultra-conservateur et catholique. Son objectif, empêcher que des cours évoquant toutes les sexualités se tiennent dans les écoles polonaises, là où les enfants seraient pervertis par cette prétendue idéologie LGBT. L'argument prend chez l'électorat fidèle du président et de son parti. Il permet aussi d'attaquer frontalement Rafał Trzaskowski, l'adversaire déchu de Duda au second tour de la présidentielle, a signé en tant que maire de Varsovie une charte LGBT+, l'an dernier, visant à protéger cette communauté et à instaurer ces fameux cours d'éducation sexuelle et de tolérance. Reparler de cette signature, c'est ramener Trzaskowski à son image d'homme des grandes villes, trop ouvert sur le monde, trop progressiste pour la majorité des Polonais. Ce dernier a tenté de rassurer l'électorat conservateur en disant qu'il était contre l'adoption par des couples homosexuels, forcé de réagir après qu'Andrzej Duda a promis il y a quelques jours d'inscrire l'interdiction de ces adoptions dans la Constitution.
Et signe que la normalité répond à des codes bien précis. On a beaucoup parlé en France, après le scrutin municipal, de l'élection de la première maire transgenre. Mariko, née homme, a été élue le 15 mars dernier dans une petite commune de 550 habitants dans le Nord, Tilloy-les-Marchiennes. 63% des voix au premier tour, un succès qui n'est pas passé inaperçu. Tout un symbole pour cette militante qui cherche surtout le dialogue. Lise Verbeek est allée la rencontrer.
Depuis son élection, Mariko, 55 ans, consultante en organisation et management, est très sollicitée par les médias français, mais pas uniquement. CNN, CBS, des journalistes argentins et même la télévision ukrainienne qui est venue dans le village.
Je savais qu'il y avait un risque d'exposition, j'ai toujours été dans la discrétion. Donc je m'attendais peut-être à un petit buzz ou ça que sorte un petit peu dans la presse spécialisée LGBT, mais je m'attendais pas à cette résonance au niveau média et surtout au niveau international. C'était assez surprenant. Maintenant, avec du recul, je pense que c'est aussi pas le fait que je sois la première mère transgenre d'un village en France. Je pense aussi que c'est que le fait que mon discours soit un discours de normalité et que je ne le revendique pas. La stratégie, c'est de dire nous sommes comme les autres et on ne fait pas partie d'une communauté.
Pour Mariko, son élection aurait dû être un non-événement, mais elle profite de cette caisse de résonance.
Ça vaut le coup de passer des messages pour tout le monde, hein, y compris pour les LGBT, en leur disant « arrêtez d'avoir peur, soyez vous-même, soyez normaux et les gens vous accepteront ». Enfin, moi, c'est ma démarche en acceptant moi-même et en étant une personne normale. Bah, les gens, ils me disent, les trois premières secondes, ils disent « tiens, c'est une personne transgenre ». Puis trois secondes après, ils ont oublié, puis ils ne voient plus qu'une personne normale.
Ne pas mettre les gens dans des cases et prendre le temps d'expliquer la transidentité, deux choses essentielles selon elle.
Je n'ai jamais été militante. J'ai même été plutôt sceptique, voire inquiète par rapport au militantisme. Hein. Je lis beaucoup la presse militante. C'est difficile de s'y retrouver. Je trouve que le discours est trop virulent. Il est beaucoup dans la colère plutôt que dans l'explication. La transidentité, c'est pas seulement un problème personnel, c'est aussi un problème de société. La société doit évoluer. Ben, elle évolue pas rapidement, la société. Donc il faut pas forcément condamner les gens. Faut plutôt essayer de comprendre. Parfois, on assiste plus à de la maladresse qu'à de la malveillance. Comme je dis souvent, certaines personnes transgenres comme moi ou d'autres, on a mis 20 ans, 30 ans à comprendre ce qu'on est en étant dedans 24 heures sur 24. N'attendez pas que des gens qui ne soient pas confrontés au problème vous comprennent en 5 minutes.
Mariko a vécu des années en tant qu'homme, mariée avec 3 enfants, mais ce rôle ne correspondait pas à sa vraie identité.
Depuis l'âge de... depuis la toute petite enfance, je savais que j'étais une personne différente. que ça ne me correspondait pas. Alors, bon, comme c'était il y a assez longtemps, malheureusement, je ne suis plus aussi jeune, donc j'ai 55 ans. Donc, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la presse spécialisée. Donc, j'étais seul avec mon problème. Je me sentais différente, mais je ne savais pas forcément mettre des mots dessus. Donc, il m'a fallu tout un cheminement assez long. Et c'est vraiment vers l'âge de 40 ans que j'ai vraiment su mettre des mots dedans. Et tout ce temps-là, c'est vrai que j'ai vécu un peu enfermé sur moi-même, à jouer un rôle, le rôle qu'on attendait de moi, quoi. Voilà, j'ai appris à être un homme, mais j'ai fait l'homme, j'ai fait ce qu'on attendait, mais sans comprendre pourquoi je n'étais pas comme les autres et que moi, ça ne me correspondait pas. Donc ça m'a entraîné mon divorce, hein, puisque mon ex-épouse n'avait pas accepté cette révélation, hein, qu'elle a perçue comme une trahison. Donc ça m'a coûté un divorce de 15 ans. Voilà, donc ça a été très très dur pour moi, mais ça m'a libéré aussi, ça m'a permis d'avoir mon propre chemin. Hein, et ça fait vraiment depuis 5 ans que je vis complètement femme.
Aujourd'hui, Mariko porte fièrement l'écharpe tricolore, élue sur son programme pour redynamiser sa commune. Elle veut notamment créer un lieu de rencontre dans le village pour réunir des activités culturelles, artistiques ou encore professionnelles comme un espace de coworking. Gender and sex, J.K. Rowling, gender and sex.
Pas facile de dépassionner ce débat. L'auteur à succès d'Harry Potter, la Britannique J.K. Rowling, en fait l'expérience. À la suite d'un tweet sur le réseau social, la voilà accusée de haine envers les personnes trans, bref, de transphobie. Marie Billon, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes notre correspondante à Londres. Expliquez-nous l'origine de cette polémique.
Alors tout a commencé le samedi 6 juin quand J.K. Rowling a retweeté un article appelé « Créer un monde plus égalitaire après la Covid-19 pour les gens qui ont des menstruations ». La romancière a répondu « Les gens qui ont des menstruations, je suis sûre qu'il y avait un mot pour ces gens. Quelqu'un m'aide, était-ce womband, wimpood, womand ?» Elle faisait semblant de chercher le mot « women », femme. Et c'est là qu'est le souci selon beaucoup. J.K. Rowling aurait commis deux erreurs en fait. D'abord, réduire la définition de femme aux menstruations, à son utérus. Seconde erreur, J.K. Rowling confondrait sexe et genre. Les hommes trans qui n'ont pas fait leur transition ont toujours leur menstruation, explique un utilisateur sur Twitter. La romancière s'est immédiatement insurgée, niant être transphobe. Ce n'est pas de la haine que de dire la vérité, a-t-elle répondu. Pour elle, le sexe d'une personne est une réalité qu'il ne faut pas nier. Nous ne disons pas que le sexe n'est pas une réalité, juste que ce n'est pas la même chose que le genre, rétorque une utilisatrice.
Et cette conversation, Marie, sur Twitter est devenue de plus en plus agressive.
Exactement. Des usagers de Twitter ont commencé à traiter J.K. Rowling de TERF, l'anagramme en anglais de féministe radicale excluant les personnes trans. La fille d'un présentateur vedette a tweeté une photo d'une couverture d'un livre en insultant l'auteur. Elle a réécrit le titre aussi, Harry Potter et l'audacité de cette salope. Enfin, le 5 juillet, J.K. Rowling a aussi émis des doutes sur les traitements hormonaux offerts aux mineurs pour opérer leur transition. À nouveau critiquée, elle a publié une lettre ouverte condamnant le climat d'intolérance autour de la liberté d'expression. 150 auteurs l'ont signé aussi, mais certains se sont depuis rétractés, expliquant qu'ils ne savaient pas qui d'autre avait signé cette lettre.
Et juste un mot pour terminer sur les réactions des stars de cinéma qui ont joué ces héros sur grand écran.
C'est vite fait, condamnation unanime, mais pas vindicative, de la part des trois principaux acteurs d'Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint.
Merci Marie Billon. Et pour notre chronique en un mot, nous avons choisi un mot presque intraduisible. C'est le mot espagnol « duende ». Il signifie cette magie qui vous transperce lorsqu'un danseur de flamenco est au sommet de son art et vous touche. Toutes les explications sur ce mot « duende » avec Diane Cambon à Madrid.
En 1933, à Buenos Aires, en Argentine, Federico Garcia Lorca prononce une conférence intitulée « Jeux et théorie du duende ». Le grand poète andalou ne se réfère pas au duende, le mythique lutin qui hante les forêts. C'est un des sens de ce mot et il a sans doute influencé l'autre acceptation qui appartient à l'univers du flamenco et de la tauromachie. Lorca va tâcher de décrire le concept du duende, un terme intraduisible qui se réfère à l'essence de son pays, à l'âme andalouse. Je cite. Manuel Torres, le grand artiste qui a chanté Le Peuple Andalou, déclarait « Tu as de la voix, tu sais comment faire, mais tu n'as pas le duende ». Dans toute l'Andalousie, des roches de Raen aux coques de Cadiz, les gens parlent constamment du duende. Mais on peut aussi instinctivement le découvrir quand il apparaît. Le duende est un pouvoir et non un acte. Il est une lutte, pas une pensée. J'ai entendu un ancien maître guitariste dire que le duende n'est pas dans la gorge, mais il s'élève depuis la partie inférieure des pieds. Les grands artistes de l'Espagne du Sud, gitans et danseurs de flamenco, qui chantent, dansent et jouent, savent que sans duende, même avec talent, style et perfection, il n'y a rien, aucune émotion n'est possible. Moment de grâce, charisme, magie, épiphanie, le duende est l'émotion qui transporte lorsqu'un artiste atteint un niveau d'expression inouï. Pour Joaquín San Juan, directeur depuis plus de 30 ans de la célèbre académie de flamenco Amor de Dios, dans le quartier populaire de Lavapiés à Madrid, cela n'a en effet rien à voir avec la technique.
C'est comme un mythe, mais en même temps, c'est bien réel. On le ressent. Mais attention, ce n'est pas quelque chose que l'on doit rechercher à tout prix. Cela n'a rien à voir avec le fait de savoir si l'artiste joue bien ou pas. Cela se produit lorsqu'il y a une recherche de l'émotion, de ce frisson.
Joaquín a vu défiler des milliers d'artistes dans cette célèbre académie de danse où ont été formés de grands noms du flamenco comme les danseurs María Pagès, Joaquín Cortés ou Antonio Gades. Et pourtant, le duende, cette dimension supérieure de l'ordre du mystique, il ne l'a ressenti que de rares fois.
Ce n'est qu'en 3 ou 4 occasions au cours des 50 ans de ma vie dans l'univers du flamenco que j'ai senti, lors de ces occasions précises, une sensation très étrange qui s'est produite, je ne sais pas comment, mais elle est apparue lors d'une action liée au flamenco. J'ai senti une émotion, quelque chose que je ne peux pas vraiment décrire, de l'ordre de la vision, comme si on ressentait une chose venue du surnaturel. C'est un moment fugace.
Le grand chanteur Camarón de la Isla, issu d'un milieu gitan très modeste des quartiers de San Fernando dans la baie de Cadiz, est sans nul doute l'artiste espagnol qui incarne le plus ce que représente le duende. Décédé à l'âge de 42 ans, il est qualifié de génie par l'illustre guitariste Paco de Lucía, avec lequel il enregistrait une dizaine de disques. Dans une interview enregistrée dans les années 80, avant une tournée à Paris, il décrit à sa manière l'origine du duende.
Sans vouloir offenser personne, le gitan, il a le duende, que ne possède pas le paillot, le non-gitan. Nous, on le ressent dans tout, la tauromachie, le chant, dans tous les arts. Pour nous, c'est quelque chose qui vient de la terre, on l'a dans le sang.
Ce moment magique, l'Université de Grenade a tenté de le canaliser scientifiquement, pour tenter de comprendre objectivement lorsqu'un artiste transmet le duende. Une équipe de chercheurs a utilisé la thermographie infrarouge, une technique pour mesurer la température des corps. Les danseurs envoûtés produisent un stress empathique qui baisserait de 1,5 degré en moyenne la température du corps. Si on peut mesurer le duende, le produire sur mesure reste impossible, car comme le disait Lorca, il s'agit d'un charme mystérieux et indicible.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain.